Radio Starbucks.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Mon père a été assassiné en 1985, à Naples, pas très loin d'ici. Et moi, je me bats pour insuffler le sens de la légalité chez les jeunes.
Et dans l'escale reportage, un jour dans le monde, c'est là que je vous emmène rencontrer ce monsieur. Il s'appelle Paolo Siani, il est à Naples, il est candidat aux élections de ce dimanche en Italie. C'est un pédiatre connu dans sa ville, il tente de lutter contre ce qu'on appelle les baby gangs, notamment les gangs de tout jeunes gens. Sous les radars, et Julie Pietri, vous apprendrez que la coupe mulet est donc de retour au moins en Australie. Long derrière, rasé sur les côtés, c'est pas tout à fait une bonne nouvelle sur le terrain du bon goût. Trump saison 2 et Marco Voltaire qui vous initiera à la Snake Song, 18h50. Le monde à l'envers de Jean-Marc Four et de nouvelles manifestations ce week-end de l'église contre Kabila. Nous serons en RDC. Mais tout de suite, c'est à Gaza que nous allons. Gaza qui étouffe plus encore chaque jour. Et c'est ça, disent d'ailleurs de très hauts responsables, qui peut mener jusqu'à une guerre. On y va tout de suite.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
À chaque fois qu'on parle de Gaza, c'est une expression que j'ai empruntée d'ailleurs à notre correspondant à Jérusalem, Étienne Monin. On parle d'une corde qui se tend et d'un élastique qui finira par péter sous la pression d'une population exsangue et littéralement emmurée. Et c'est toujours bon donc d'y revenir et d'en parler. C'est ce qu'on fait dans Un jour dans le monde. La semaine dernière encore, dans ce tout petit bout de territoire, 2 millions de personnes seulement, commerces et banques étaient fermés, grève des fonctionnaires aujourd'hui encore en signe de protestation. Et puis aussi riposte d'Israël, un incident qui a fait des blessés, qui a été bombardé des cibles dans la bande de Gaza, ce qu'elle n'avait pas fait depuis un certain temps, depuis d'ailleurs, je crois, 2014. Bonsoir Jean-Pierre Chagnolo.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Cergy, spécialiste de la question palestinienne. Juste en un mot, effectivement, bombarder dans la bande de Gaza des cibles précises, ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé de la part d'Israël.
Oh, très longtemps,
j'en suis pas certain.
Mais effectivement, il y a eu quelques mois où, pendant lesquels il y a eu moins de bombardements, mais il y a souvent des incidents très sporadiques. Et donc il y a sans arrêt des drones qui surveillent tout ça, et donc c'est une situation, comme vous l'avez très bien décrite, qui est extrêmement lourde pour ceux qui y habitent.
Lourde et tendue, on va se reparler dans un instant. Monsieur Chagnolo, je voudrais qu'on aille faire un aller-retour à Jérusalem, d'abord rencontrer Aliona Sinenko, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la porte-parole du CICR à Jérusalem, et si on a voulu vous entendre d'abord, c'est précisément pour ça. Je voudrais que vous nous donniez une photo, Aliona Sinenko. À quoi ça ressemble aujourd'hui Gaza? Vous en revenez, vous y étiez la semaine dernière. À quoi ça ressemble une population? Dans quel état au moment où on se parle?
Je pense que le premier sentiment qu'on ressent quand on voit la population, c'est le désespoir et c'est l'inertie. Donc on voit, la Gaza rassemble pas à d'autres crises humanitaires. On voit les magasins qui fonctionnent, on voit les gens dans la rue. En même temps, il n'y a pas des gens qui achètent les choses, l'économie est en déclin. Donc le seul espoir que les gens peuvent avoir à Gaza aujourd'hui, c'est partir à Gaza, s'ils sont assez jeunes, ou faire partir leurs enfants.
Ce qui est particulièrement difficile, on sait bien que les portes s'ouvrent extrêmement rarement et que c'est presque, je vais le dire comme ça, au petit bonheur la chance pour pouvoir sortir au moins un instant, non ?
Tout à fait, c'est très difficile et même on a vu un déclin donc pour les gens qui doivent sortir pour chercher le traitement spécialisé à l'extérieur du Gaza, le nombre de permis devient de plus en plus difficile d'obtenir un permis. Aujourd'hui, c'est à peu près la moitié qui arrive.
À la moitié de ceux qui le demandent, bien sûr, et pas la moitié des 2 millions de personnes qui sont sur place. Aliona Sinenko,
la moitié des demandeurs.
Qu'est-ce qui manque le plus et le plus cruellement? On parle de coupures d'électricité qui sont permanentes, de problèmes d'acheminement aussi, de nourriture. Qu'est-ce qui manque particulièrement?
À mon avis, ce qui manque particulièrement, c'est les opportunités. Il manque de tout à Gaza. On peut prendre n'importe quel aspect de vie. Il manque des médicaments, il manque d'électricité, il manque de l'eau potable. Mais pour moi, la chose qui manque le plus, c'est les opportunités. Parce que les gens, ils ont pas l'opportunité d'améliorer leurs conditions de vie. Ils ont pas les opportunités de travailler leur terre, de pêcher, d'exporter leur production. Et c'est ça ce qui est le plus grave.
Et on va rappeler quelques chiffres, hein. Le taux de chômage à Gaza tourne autour de 44%, presque 60% dès lors qu'on est très jeune, ce qui est immense. Qu'est-ce qui se passe, Aliona Sinenko, si l'aide extérieure se ralentit et diminue fortement, notamment celle des agences de l'ONU, puisque les Américains ont promis de couper les robinets. Qu'est-ce qui se passera si effectivement cette aide est très largement réduite?
Je pense qu'on peut faire des prognostics assez alarmants de ce qui va se passer. On peut imaginer aujourd'hui, il y a 7 sur 10 personnes qui dépendent de l'aide, de l'aide humanitaire. Donc, on peut facilement imaginer ce qui peut se passer si cette aide humanitaire est coupée. Par contre, pour nous, l'organisation comme les Nations Unies ou comme le CICR, on ne peut pas apporter la solution au problème de Gaza. Donc, l'aide humanitaire, elle est importante parce qu'il y a plusieurs de personnes à Gaza qui en dépendent, mais ça n'apporte pas les solutions au problème. Ils ont besoin des solutions politiques.
Quand vous dites que, effectivement, vous ne pouvez pas apporter l'aide nécessaire, ça veut dire effectivement que vous avez l'impression, quoi, de tourner en rond, parce que cette discussion qu'on est en train d'avoir, c'est triste à dire, mais on l'a déjà eue et on l'aura peut-être probablement après. Est-ce que vous avez le sentiment réellement que c'est une espèce de mythe de Sisyphe? On monte le rocher puis on le descend immédiatement derrière.
Nous, on a le sentiment qu'on a un malade et on le maintient en support de vie. Donc nous, on ne peut pas guérir le malade. Donc voilà, on est en train de maintenir le niveau basique minimum des services basiques et essentiels, mais c'est pas la qualité de vie que les gens de Gaza ou les gens n'importe pas où dans le monde méritent.
Et l'exaspération, l'impatience, est-ce que vous la sentez monter, fluctuante? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est à une sorte de pic aujourd'hui ou pas?
Je pense que la situation à Gaza, elle fluctue. Donc on voit des pics, on voit des petits moments d'espoir qui durent pas longtemps. Bon, la situation devient de pire en pire. Ça, c'est bien évident. Il y a des chiffres, il y a les facteurs économiques qui le montrent. Donc, par exemple, vous avez mentionné le taux de chômage. Mm-hmm. Les dernières données que moi j'ai vues, c'était 47% de chômage, ce qui est le plus haut de ce qu'on a vu depuis 2014. Donc ça, c'est bien évidemment, c'est très alarmant. Par contre, la situation, elle est au même niveau depuis déjà très longtemps. Et chaque fois qu'on pense qu'on va arriver à une période de crise aiguë, il y a quelque chose qui est fait. Il y a un pays comme Qatar qui va faire une donation, il y a un déblocage des fonds quelque part. Donc on va toujours faire quelque chose au dernier moment pour avertir la crise. Par contre, ce que les gens de Gaza, ce dont ils ont vraiment besoin, c'est qu'on leur apporte des solutions à long terme et pas cette espèce de bouge trop à chaque moment qu'on pense que la situation va amener une crise aiguë.
Et des quelque chose à long terme, ça veut dire en gros plus de développement et moins de perfusion. C'est ça que ça veut dire en fait. C'est ça que vous dites, Agnola Sinenko.
Ça veut dire des solutions politiques qui puissent permettre aux gens de bouger plus librement, qui puissent permettre à l'économie de fonctionner normalement, qui puissent leur donner les opportunités d'améliorer leurs conditions de vie, parce qu'ils n'ont pas besoin d'humanitaire pour faire ça. Ils ont besoin des opportunités pour pouvoir le faire eux-mêmes.
Merci beaucoup, Alyona Sinenko, porte-parole du CICR avec nous depuis Jérusalem. Vous pouvez évidemment réintervenir quand vous le souhaitez dans Un jour dans le monde. Jean-Pierre Chagnolot, Jean-Paul, pourquoi je vous appelais Jean-Pierre? Quand on écoute ce témoignage, il y a une chose qui paraît extrêmement importante, c'est on a besoin évidemment d'aide, on a besoin de tout ça quand on est à Gaza, on a surtout besoin d'opportunités, en fait. Et la clé est peut-être plus là-dedans même que dans une perfusion alimentaire, électrique ou je ne sais quoi.
Alors, je crois que la notion d'opportunité est bien vague. Je pense que cette affaire est fondamentalement politique. Nous sommes dans un blocus qui a été plusieurs fois et très fermement condamné par les Nations Unies, par le Conseil de sécurité, depuis 2005. C'est-à-dire, ça fait plus de 12 ans que ça dure. En fait, il y a eu deux étapes. Le moment du retrait israélien et des colonies en 2005, puis ensuite 2006-2007, le blocus a été à peu près
l'arrivée du Hamas et le blocus total.
Mais même avant, dès le retrait, il y a eu des formes de blocus. Donc c'est effectivement une situation d'enfermement. Et il faut bien comprendre que pour les Israéliens, que ce soit à droite ou à gauche, on essaie d'oublier Gaza. On a même essayé à un moment donné de rendre Gaza aux Égyptiens. Enfin, il y a cette espèce de fantasme, quoi. En fait, ça fait partie intégrale de la Palestine. Et donc, la vraie question, c'est la question politique. On en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire, il faudrait un règlement global. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a une chose très juste qui a été dite par le CICR à l'instant, c'était de dire qu'on maintient effectivement ces 2 millions à un niveau niveau juste qui permet de vivre, de survivre.
Juste suffisant pour survivre en attendant.
On empêche qu'il y ait une crise humanitaire, mais ce sont des paroles terribles parce que on est dans une situation qui est déjà insupportable. Y a des questions de quotidienneté qu'il faut bien comprendre. Par exemple, on a parlé de l'eau, mais il n'y a pas d'eau. Enfin, moi j'ai des amis à Gaza, ils ont de l'eau salée pour leur douche. Il n'y a pas d'électricité, vous l'avez rappelé, puisque la centrale a été démolie. Ensuite, ça dépend de d'Israël en partie, en tout cas. Donc on est vraiment dans des choses extrêmement basiques et surtout je crois qu'il y a vraiment aucune espèce d'horizon. C'est fermé de partout, c'est fermé par la terre, mais c'est fermé aussi par la mer et même pour aller pêcher du temps où je pouvais y aller parce que maintenant c'est impossible d'y aller. Eh bien les pêcheurs déjà avaient des contraintes terribles. Ils sont à 2 miles, 3 miles, ils sont dans des conditions terribles. Donc c'est vraiment un enfermement dont on n'a pas idée quoi, parce qu'il y a guère de situations comparables.
Alors vous dites effectivement que la solution elle est politique, alors le règlement global, c'est pas demain la veille, si je puis dire. Est-ce que, quand même, si cette fameuse réconciliation entre le Hamas et le Fatah commençait à prendre un tour un peu plus concret, parce que pour l'instant, on voit pas grand-chose venir, est-ce que ça changerait réellement quelque chose ou pas?
Je crois qu'il y a des éléments qui tiennent aux Palestiniens, il y en a qui tiennent évidemment à Israël, à l'Égypte, et à la communauté internationale. On a plusieurs niveaux. Mais c'est bien évident qu'en ce qui concerne la réconciliation, il y a eu un moment fort. Ça a commencé en 2011, vous voyez, c'est vieux. Mais là, il y a eu un moment fort à l'automne dernier, avec comme date butoir le 1er décembre. C'est-à-dire qu'en principe, au 1er décembre, il devait y avoir une réconciliation, ce qui voulait dire que l'autorité palestinienne reprenait le contrôle et de l'administration.
Ça veut dire transfert de responsabilité.
Elle reprenait les responsabilités qu'elle a finalement jamais pu assumer véritablement. Et donc, depuis 2005 et depuis 2007. Et donc, là, cette autorité palestinienne devait reprendre le contrôle des frontières. Enfin, Eretz et Rafah. Rafah, c'est avec l'Égypte. Eretz, c'est avec Israël. Enfin, pour la partie palestinienne, évidemment. Et puis, devait assumer la gestion des grandes administrations. Et puis, il y avait aussi la question de la sécurité, la question des armes. Bon, et sur tous ces points, sauf sur l'aspect contrôle des postes sur l'Égypte et sur Israël. Tout cela est complètement figé. Alors même que les gens du Hamas avaient affirmé, Sinoir en particulier, le patron du Hamas, avait affirmé qu'il irait au bout de cette réconciliation. Donc on est bloqué pour des raisons qui tiennent évidemment à des contradictions internes au Hamas et puis aussi des enjeux de pouvoir évidemment. Donc ce qui fait que c'est une dimension très importante ça. Et malheureusement, ils sont au point mort, ou pratiquement au point mort.
Mais cela dit, dans la situation telle qu'on l'a décrit, si, imaginez, demain quelque chose se débloquait, en quoi le fait que les choses soient réglées entre le Fatah et le Hamas permettrait à cette étuve de prendre un peu d'espace.
C'est une question d'étape. C'est-à-dire que je pense que c'est important que les Palestiniens se rassemblent. Aujourd'hui, ils sont divisés. C'est le premier point. Et une fois qu'ils seront rassemblés, s'ils arrivent à le refaire, cette unité nationale, ben, il faudra essayer de reprendre une stratégie politique au niveau international. Parce que du point de vue israélien, il est extrêmement clair que le gouvernement actuel, je ne dis pas Israël en général, mais le gouvernement actuel, le gouvernement Netanyahou, ne veut en aucun cas une négociation, il l'a montré, et comme en plus, il se sent conforté par les positions assez extrémistes de Donald Trump, eh bien, ce gouvernement peut aller très loin. En plus, on est dans une configuration très particulière cette année 2018, parce qu'on va être dans le 70e anniversaire de l'État d'Israël. Donc on aura évidemment un renforcement encore de cette volonté de s'imposer comme État juif. Je parle évidemment de la position de Netanyahou avec le soutien des Américains. Donc l'horizon immédiat des prochains mois me paraît extrêmement lourd de drames.
C'est le chef d'état-major des armées, donc un Israélien, qui disait, c'était hier ou avant-hier je crois dans Haaretz, qui disait dans cette situation-là la guerre est inévitable. C'est le fameux élastique qui est tendu jusqu'à péter. Est-ce que vous pensez réellement qu'une guerre peut être inévitable? Peut-être d'ailleurs Israël n'en veut probablement pas et le Hamas non plus.
Vous savez, la notion... c'est très compliqué comme question et en même temps elle est fondamentale. C'est-à-dire que cette région en Palestine et autour, on voit ce qui se passe en Syrie, malheureusement a oublié le rapport au politique au sens de la négociation, au sens du compromis, au sens d'essayer de trouver des voies diplomatiques de sortie d'un conflit. Et on en revient à la violence. Et dans ce cadre-là, dans cette configuration-là, il est bien évident que la guerre est possible à tout moment. Alors qu'on la veuille, quelquefois on la décide très clairement, mais quelquefois elle vous échappe en quelque sorte. C'est une configuration qui fait qu'à un moment donné il y a un incident grave et puis il y a une réaction qui n'était pas forcément celle qu'on voulait avoir et il y a un engrenage. Mais et donc je crois effectivement qu'il peut y avoir demain des embrasements de grande violence. Sauf à préciser un point qu'il faut bien saisir, c'est que quand on parle de la guerre, il faut juste dire un mot sur les moyens qu'on va utiliser. Et aujourd'hui, nous sommes plus seulement dans les rapports terrestres avec l'importance des chars, mais il y a des missiles. Or, avec les missiles, tout peut arriver. Je veux dire que c'est à partir du moment où on commence une guerre demain dans cette région, ça peut aller très très loin.
Mais ceci dit, est-ce qu'il y a un avant et après 2014 pour le Hamas notamment? Est-ce que le risque aujourd'hui de se confronter à Israël n'est pas encore plus grand et risquerait de les anéantir là pour le coup pour de bon?
Je pense pas qu'une organisation, quelle que soit l'opinion qu'on peut en avoir, qui malgré tout s'appuie sur une frange de la population palestinienne, puisse être anéantie. Elle peut être très considérablement affaiblie, mais si elle l'était ou si elle était en passe de le devenir, ses réactions seraient d'autant plus violentes. Donc si on va dans cette direction, on va effectivement vers des confrontations qui seront absolument pas maîtrisées. Je crois vraiment que la communauté internationale devrait s'en saisir. Le problème, c'est que la communauté internationale, comme on dit, j'aime pas trop cette formule, disons, oui, le Conseil de sécurité, partout, pour être plus précis, ne s'intéresse vraiment à ces questions, sauf exception, il y en a eu quelques-unes, que lorsqu'il y a justement une situation de violence.
Et la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que on a dit que les derniers incidents sont le fait de ce qu'on appelle les comités de résistance populaire. Oui. Est-ce que ces comités de résistance populaire, le Hamas les tient, les retient, les maîtrise, ou est-ce qu'on fait semblant? Après tout, laisser faire, c'est aussi faire savoir. Donc, c'est aussi une manière de mener une espèce de sous-guerre d'un incident à l'autre.
Je pense qu'aujourd'hui, le Hamas n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait une déflagration dans la situation où il se trouve. Il a perdu beaucoup de ses alliés. On n'est plus en 2012 où il y avait des frères musulmans en Égypte, par exemple, où on avait le sentiment que les islamistes pouvaient l'emporter. Donc aujourd'hui, ils sont en position de recul et de repli. Et donc, ils ont tout intérêt à essayer de faire en sorte qu'ils contrôlent les situations. Je crois que c'est tout à fait essentiel.
Mais ils contrôlent, vous avez le sentiment qu'ils contrôlent?
Je pense qu'ils sont capables de le faire jusqu'à un certain point. Il y a forcément tel ou tel groupe qui peut leur échapper, sans doute. Mais globalement, ils contrôlent, certainement. Et c'est-à-dire une des raisons, d'ailleurs, du blocage de la réconciliation, c'est le fait qu'ils veulent, en toute situation, conserver les armes dont ils disposent et qui sont quand même assez importantes. L'autorité palestinienne voudrait les récupérer. Et ça, c'est un point d'achoppement majeur, parce que les armes, c'est pas simplement la matérialité des armes, c'est évidemment ce que ça représente, c'est-à-dire, du point de vue du Hamas, la capacité de résistance.
Je vous pose la même question que tout à l'heure à Aliona Sinenko, la porte-parole du CICR. Effectivement, le président Trump, le président américain, va couper très largement ses crédits, notamment vers les réfugiés palestiniens, mais aussi donc du côté de Gaza. Est-ce que ça risque d'être un détonateur particulier et très important ou pas?
Je ne sais pas s'il sera un détonateur, mais ce qui est clair, c'est une mesure qui est dramatique. Le commissaire général de l'UNRWA va venir dans quelques jours à Paris pour rencontrer...
Et dans Un jour dans le monde d'ailleurs.
Oui, ben, très bien. Il vient dans notre institut, l'IREMO, là aussi. Je crois que c'est... Il vient parce qu'il est en situation dramatique. Et donc, ce genre de décision prise par Trump peut avoir des conséquences évidemment terribles. Et je ne suis pas sûr que Donald Trump en ait même conscience.
Jean-Paul Chagnolot, professeur de sciences politiques à l'Université de Cergy, spécialiste de la question palestinienne. Merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
Merci
à très
vous.
Vite.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde en Italie avec Mathilde Imberti pour le reportage du jour et un pédiatre qui veut sauver les enfants de Naples de la violence de ce qu'on appelle les baby gangs. On parlera aussi d'une coupe de cheveux à l'honneur en Australie dans Sous les radars. Trump saison 2 et Marco Voltaire. Bonsoir Marco.
Bonsoir.
Avec une chanson pour commencer, Marco, ce soir?
Oui, vous allez entendre Donald Trump faire un genre de slam tout à l'heure, puisque le président américain peut être fan de poésie quand, attention, hein, ça lui permet de s'en prendre aux immigrés.
Allez, on a hâte, enfin, et pas vraiment. Jean-Marc Four dans Le Monde à l'envers en RDC ce soir. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Encore des manifestations, toujours l'église contre Kabila.
Et oui, pendant que notre regard est tourné vers la Syrie, en toute logique d'ailleurs, eh bien Petit Joe lui réprime. Petit Joe, c'est le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, indûment au pouvoir depuis plus d'un an maintenant.
Allez Jean-Marc, il sera 18h55. Merci beaucoup, à tout de suite. Le tour du monde du 18-20 continue. Voici Marlon Williams. What's chasing you? Chase.
tell you I'm gonna build a world around you. Too far, you're too far away from me to pull you in and show you just what I can do with a lover who tries to bend with me too while it's chasing you. While it's chasing
la voix d'Elvis, Marlon Williams. Voilà, c'était ma contribution et ma minute nécessaire dans la playlist de France Inter. On file sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimashvili Kapion.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Non, Julie Pietri, pas la voix d'Elvis.
Si, un petit peu, ça
merci,
va.
Je vous remercie beaucoup de ne pas me contredire. On n'est pas intérêt d'ailleurs, vous êtes là toute la semaine. Dans l'actualité de Sous les radars, ce qui vous a échappé dans le monde et peut-être ce à quoi vous avez échappé, c'est une coupe de cheveux, la fameuse coupe mulet, Julie, qui a vécu de beaux instants ce week-end.
Premier festival pour le célébrer dans une ville d'Australie, Kurri-Kurri, qui aurait vu naître cet art capillaire il y a bien longtemps. La coupe mulet, c'est les cheveux courts dessus, courts sur les côtés, parfois rasés, mais longs derrière sur la nuque. Succès dans les années 70-80. La coupe mulet, c'est la coupe pratique à porter, sérieuse devant, fun derrière, typiquement australienne, décrit un participant, une bière à la main. C'est facile à entretenir, il faut l'avoir au moins une fois dans sa vie. Ce n'est pas une coupe en fait, c'est un mode de vie. Alex, qui vit 12 ans, jeune garçon blond, vainqueur dans la catégorie junior, explique lui, très sérieux.
All my friends telling me they want one.
Tous mes amis me disent qu'ils en veulent une, mais je ne pense pas que ça va à beaucoup de monde. Moi, je l'adore, j'aime ce style et j'aime avoir les cheveux longs. Il est un adepte depuis un petit peu plus d'un an parce que, dit-il, jusqu'ici, c'était mon père qui me coupait les cheveux et c'était toujours terrible. Tragiquement, raconte le Guardian, parmi les catégories récompensées, crasseux, mulet de tous les jours, mulet roux, une n'avait ce week-end pas de candidat ou presque. La catégorie femme, une concurrente seulement, un bébé de 11 mois, visiblement déjà assez chevelu.
Voilà, ben Jean-Marc Faure me suggère d'essayer. La réponse est non, Jean-Marc. Vous devrez vous-même
plutôt
essayer
pour les hommes, hein,
la
visiblement.
Coupe mulet, visiblement. Ce qui n'est pas tout à fait une bonne nouvelle. Donc, pour le bon goût, voici un homme qui a connu les moqueries. Mais s'il n'est pas question d'apparence, nous allons en Italie, Julie.
Et bien qu'il soit parfois dit qu'avec sa coupe très courte, quasi rase, il a l'air d'un militaire. Ce sont plutôt les mots qui sortent de sa bouche qui lui valent parfois des railleries parce que monsieur fait des fautes de subjonctif. Luigi Di Maio est un homme dont on va sans doute parler plus avec les élections italiennes de ce week-end. Il a tout juste 31 ans et napolitain. C'est lui qui a succédé à Beppe Grillo à la tête du mouvement 5 étoiles italien, près de 30% des intentions de vote. Contrairement au fondateur du parti, l'outre France, ce n'est pas son genre. Son style, c'est plutôt modération, calme, sérieux. Il est rassurant pour les mamans, peut-on lire dans un livre portrait consacré au jeune leader. Son CV est peu fourni, études de droit pas terminées, ancien job, administrateur d'un site web, assistant réalisateur aussi, tout ça brièvement. Voilà comment le jauge Silvio Berlusconi à la télévision italienne quand une présentatrice lui fait remarquer que le jeune homme est habile et préparé.
Molto più abile, molto più preparato.
Si, si, ha imparato a fare
politica. Oui, il a appris à faire de la politique. C'est un jeune garçon éveillé, avec un joli minois pour la télé, mais intérieurement, il est totalement inconsistant. Luigi Di Maio, critiqué pour son inexpérience, veut le pouvoir, veut entrer au gouvernement, il est prêt à passer des alliances s'il le faut. Pour assurer, il refuse le mot populisme, extrémisme aussi, et ne parle plus de sortie de l'euro.
Allez, on reviendra sur l'Italie d'ailleurs et ses élections dimanche dans le reportage d'Un jour dans le monde. Dans un instant, un mot Julie des athlètes nord-coréens, alors que les médaillés français de Pyeongchang, eux, sont en train de tranquillement de revenir. Qu'est-ce qui va se passer pour les nord-coréens?
France, 15 médailles, la fête à l'arrivée, nord-coréens, 0, retour bredouille. Et que va-t-il se passer? Donc risque de prison, de sanctions. On croit savoir certains médias qui n'ont pas énormément d'éléments pour le dire, mais qui rappellent l'histoire. 1966, Coupe du monde de foot, accès surprise de l'équipe nord-coréenne au quart de finale, puis élimination. De nombreux joueurs auraient alors été relogés de force ou emprisonnés. 2010, Coupe du monde de foot encore, la Corée du Nord joue 3 matchs, les perd tous. Radio Free Asia évoque à ce moment-là de possibles travaux forcés pour l'entraîneur. À Tokyo, un universitaire spécialiste de la Corée raconte comment, à contrario, ceux qui ont gagné des médailles aux Jeux Olympiques de Rio Rio en 2016 ont gagné par la même occasion de meilleures rations ou une voiture, mais tout cela reste en fait assez obscur et difficilement vérifiable.
Allez, Julie Pietri, sous les radars jusqu'à la fin de la semaine dans Un jour dans le monde. On reste en Italie, tiens.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo.
Les routes France Inter.
On reste en Italie, plutôt on y retourne. C'est à Naples que nous sommes pour l'escale reportage de ce lundi, à quelques jours donc des élections. C'est dimanche, à quelques jours émergent quelques candidats atypiques qui pourraient bien faire parler d'eux. Bonsoir Mathilde Imberti.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et en voici un, il s'appelle Paolo Siani, il est pédiatre, il est totalement novice en politique, mais il se bat depuis que son frère a été tué par la Camorra, c'était dans les années 80. Son programme, lutter contre ce qu'on appelle là-bas les baby gangs, ce sont des groupes de mineurs qui mènent dans les rues de Naples des attaques au couteau. Et on écoute votre reportage, Mathilde.
C'est dans son quartier, le Vomero, dans les hauteurs de Naples, que Paolo Siani a naturellement établi son QG de campagne. En fait, tous le connaissent déjà ici. Il est le pédiatre Siani du très réputé hôpital Santo Bono. Il est aussi le frère du journaliste Giancarlo Siani, assassiné par la Camorra.
Mon frère a été assassiné en 1985, à Naples, pas très loin d'ici. Et moi, je me bats, cela fait 32 ans maintenant, non pas contre la criminalité organisée, mais pour insuffler le sens de la légalité chez les jeunes.
Plus de 30 ans de combat derrière lui, avec une fondation qui intervient notamment dans les écoles. Et aujourd'hui, Paolo Siani voudrait devenir député pour aider la jeunesse et prévenir la délinquance.
Le malaise social a toujours existé. Mon frère, dans le dernier article publié de son vivant, écrivait sur les gamins des rues, les mineurs qui servent de mules aux trafiquants de drogue. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La question c'est, qu'est-ce qu'on a fait pour ces gamins en 30 ans ? Probablement pas assez. Alors aujourd'hui, on récolte les baby gangs. Mon programme de candidat est d'intervenir de manière structurelle auprès des enfants et des familles, en agissant sur la pauvreté éducative. Un travailleur social interviendrait dans chaque famille où il y a une naissance pour accompagner cette famille durant les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Il faut commencer très tôt à leur faire écouter de la musique, à ouvrir des livres et à stimuler le cerveau. Les 1000 premiers jours de l'existence sont décisifs. Ensuite, ce travailleur portera l'enfant sur le chemin de la crèche, puis celui de l'école. Une école dont il faut élargir les horaires d'ouverture. L'objectif est de donner la possibilité à tous les enfants de Naples de choisir une autre voie, de leur donner une autre chance dans la vie. Et moi, je préfère réfléchir mes collègues parlementaires sur le sujet pour ensuite faire adopter une loi à l'échelle du pays.
Per poi poter arrivare a una legge del nostro Stato.
Le Parti démocrate, le centre-gauche au pouvoir aujourd'hui en Italie, est venu chercher Paolo Siani pour qu'il se porte candidat. Ses amis, ses voisins à Naples l'ont encouragé.
Je suis David Estate, mon oncle a été tué par la criminalité organisée. Ce que j'apprécie dans son programme, c'est le fait de suivre les enfants dès la petite enfance. Avant de devoir les punir, je peux en parler moi, puisque mon oncle a été tué par un garçon de 17 ans. Moi aussi, je pourrais m'unir au cœur de ceux qui réclament des peines plus dures et de baisser l'âge de responsabilité pénale. Mais en face, on a des enfants. Et si on doit envoyer un gamin mineur en prison pendant 20 ans pour se sentir en sécurité, alors ça veut dire que la société a échoué.
La Campanie, la région de Naples, fait naître plus d'enfants qu'ailleurs en Italie. Mais les inégalités sont notables dès la petite enfance. 6% des enfants napolitains vont à la crèche, contre 21% en Italie. Et dès la deuxième année d'école élémentaire, un élève napolitain possède moins de connaissances qu'un enfant du même âge vivant dans le nord du pays. Dans certains quartiers difficiles, les enfants grandissent seuls et désertent l'école, témoigne la commandante de police Sabina Pagnano, ancienne responsable de la protection des mineurs au sein de la police municipale, aujourd'hui en poste à quelques rues du candidat Siani.
Je peux vous raconter notre toute dernière arrestation. C'était deux garçons de 13 et 15 ans qui fumaient de la drogue. On a essayé de remonter jusqu'à leur famille. Personne ne nous a répondu. Nous n'avons pas identifié un seul adulte responsable pour eux. On les a placés dans des familles d'accueil. Après enquête, on a su que pour le premier, son père était mort et sa mère vit dans de telles conditions qu'elle ne s'en occupe pas. Quant au deuxième, son père ne l'a jamais reconnu. Sa mère est morte, c'est une tante qui le garde mais elle n'arrive pas à faire face. On se rend bien compte que ce sont des enfants qui vivent sans aucun repère adulte. D'ailleurs, ils ont chacun déjà un casier judiciaire pour des attaques au couteau. Et donc il faut les aider.
Vivono una vita senza una guida e quindi vanno aiutati.
Dans ce paysage napolitain se détache une autre figure qui tente de faire bouger elle aussi la sphère politique sur le thème des baby gangs. La mère du jeune Arturo, battu quasiment à mort par quatre mineurs.
Io sono Maria Luisa Iaverone e sono la mamma di Arturo.
Je suis Maria Luisa Iaverone. Je suis la maman d'Arturo. Il a reçu 16 coups de couteau et a frôlé la mort. C'était le 18 décembre dernier, en plein centre de Naples, à 150 mètres de chez nous, à 5 heures de l'après-midi, dans une rue noire de monde. J'ai voulu me saisir du sang de mon fils comme d'une opportunité de rachat pour toute la communauté. Nous tenons depuis trop longtemps ces choses pour nous. Nous ne nous indignons plus de rien. Et nous sommes responsables en quelque sorte de cette dégradation de la société.
A tenere per noi, a farci i fatti nostri, a non indignarci più, e quindi probabilmente noi siamo l'espressione di questo degrado.
Alors moi, je suis allée à la télévision et j'ai lancé un appel aux autorités. J'ai demandé la tenue d'un sommet sur la sécurité à Naples. Le ministre de l'Intérieur est venu et il a tout de suite mobilisé 100 policiers en plus dans les rues. Et puis, il a prévu de débloquer des fonds pour envoyer 400 éducateurs de rue, un projet ambitieux.
Il finanziamento per un enorme progetto di 400 educatori di strada.
Ce ministre, je sais qu'il est candidat aux élections pour le Parti démocrate. J'espère que s'il est élu ou même confirmé à son poste, il onorerà ses engagements.
E ho con la sua riconferma questo ministro sappia continuare ad onorare gli impegni che ha già preso.
Quelle couleur aura le nouveau Parlement italien? Quel gouvernement pour quelle politique? Les jeux sont très ouverts. Notre pédiatre napolitain, Paolo Siani, lui, devrait être élu et rejoindre les rangs du Parti démocrate à la Chambre des députés. Le parti de centre-gauche, par ailleurs plutôt en difficulté lors de ses élections dans le sud de l'Italie.
Voilà, et tout ça, nous le vérifierons ensemble. Mathilde Imberti, merci beaucoup. Après les élections, c'est dimanche prochain et lundi, donc probablement dans Un jour dans le monde. Allez, à très vite. Voici José Feliciano, Light My Fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, yeah, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation is true. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Et en voilà une drôle de version de Light My Fire, signée José Feliciano sur France Inter.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saint-Esse.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Et l'actu en série, le lundi, Trump, saison 2, Marco Voltaire. Rebonsoir, on parle de chansons ce soir, Marco. Une chanson au texte très prisé par Donald Trump et aussi ses fans. On commence par écouter la version originale, si vous voulez bien.
On her way to work one morning down the path alongside the lake.
Bref, ça s'appelle The Snake Song, une chanson écrite dans les années 60, écrite par un activiste noir. Et Trump, Marco, lui, s'en sert pour s'en prendre à l'immigration.
Oui, c'était un rituel, devenu un rituel pendant la campagne électorale. Donald Trump récite les paroles de cette chanson qui raconte comment une femme sauve un serpent du froid et finit par se faire mordre le serpent. C'est l'immigré, la femme, ce sont les États-Unis. Le public du président est fan, tous veulent le Snake Song et le réclament pendant les meetings, un peu comme une sorte de rappel pendant un concert. Et donc Donald Trump l'a ressuscité il y a quelques jours. C'était écouté pendant la grande conférence annuelle des conservateurs à Washington.
Ça s'appelle le serpent. Et écoutez-le en faisant le rapport avec l'immigration. Un matin, sur le chemin du travail, une femme au grand cœur vit un pauvre serpent gelé par le froid. Pauvre de toi, s'écria la femme. Je t'emmène chez moi et je vais prendre soin de toi. Mais au lieu de lui dire merci, le serpent vicieux la mord.
En tout, la récitation dure 3 minutes. Trump s'en est déjà servi pour parler des Syriens, puis des Mexicains. Et voilà que l'auteur de la chanson, l'activiste Oscar Brown, qui luttait contre le racisme donc dans les années 60, voilà qu'il se retournerait dans sa tombe, a expliqué sa fille, Africa Brown. Écoutez.
Je crois que mon père serait très choqué et surpris parce qu'il a représenté tout le contraire de Donald Trump. Et je sais qu'il aurait dit que cette chanson parle justement de gens comme Trump.
Et un Donald Trump, Marco, qui dans ses plans pour limiter l'immigration veut notamment restreindre le regroupement familial, sauf que ça va s'appliquer à tout le monde, sauf à lui apparemment.
Et oui, on vient d'apprendre que les parents de Melania Trump, un des Slovènes, ont depuis apparemment assez longtemps obtenu leur green card, leur carte de résident, le fameux sésame, et pourraient donc très bientôt devenir des citoyens américains. Et à part le regroupement familial, on ne voit pas trop comment ils auraient pu obtenir leur green card autrement. Or, le président, lui, il le dit à chaque meeting et chaque intervention sur l'immigration, veut limiter le regroupement familial aux enfants mineurs et aux époux. Voilà, dans le genre « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ».
Et alors, pour finir, tiens, toujours dans la famille Trump, mais cette fois je prends le fils aîné Donald Trump Jr. Lui, il est accusé d'alimenter des théories conspirationnistes sur la tuerie du lycée de Parkland en Floride.
Cette théorie, c'est que le jeune David Hogg, un lycéen de 17 ans qui est devenu le porte-parole du mouvement des jeunes contre le port d'armes, eh bien, que ce David Hogg serait en réalité un acteur engagé par les libéraux, les anti-armes. Eh bien, Donald Trump Jr. aurait liké des tweets qui alimentent cette théorie du complot. C'est la sœur de David Hogg, elle a 14 ans, qui l'a interpellé ce week-end sur Twitter en disant « À cause de vous, je me fais harceler et insulter sur Internet ». Alors voilà la réaction du frère David Hogg avant-hier, hier, sur cette théorie conspirationniste. Il était invité sur CNN. C'est super, c'est une superbe pub. Cela montre à quel point ces gens sont dégoûtants, me faisant passer moi un témoin de cette horrible tuerie pour un acteur. Cela montre à quel point ces gens sont déplorables.
Allez, un David Hogg, Marco, qui mobilise les jeunes pour une nouvelle marche contre les armes. Elle aura lieu à la fin du mois de mars à Washington et aussi à travers tout le pays. Merci beaucoup, à très vite.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
Et Jean-Marc Four, qui, comme tous les soirs, met le monde à l'envers. Dans Un jour dans le monde, Jean-Marc, c'est la troisième fois, en 2 mois seulement, en RDC, en République démocratique du Congo, que les gens descendent dans la rue pour des manifestations contre le pouvoir. Le pouvoir, c'est celui de Joseph Kabila, ça fait 17 ans qu'il est au pouvoir. Il a longtemps été vu, et notamment par nous, par la France, comme celui qui serait le gage de stabilité de la région, le cœur de l'Afrique. Mais il est peut-être temps de changer de logiciel, c'est votre monde à l'envers, Jean-Marc, et si on arrêtait de soutenir ce monsieur ?
Je vais vous raconter une histoire, c'est l'histoire de Thérèse Kapangala. Thérèse a 24 ans, je vous la montre en photo, ici en studio, la voici, vous voyez, elle a les cheveux tressés, le visage souriant, elle est diplômée de couture. C'est une jeune femme comme la RDC en compte beaucoup, vaste pays hein, la RDC, l'ex-Zaïre, 4 fois la France, 90 millions d'habitants, dont 60% de la population a moins de 20 ans. Thérèse envisage d'entrer au couvent et le 21 janvier dernier, elle manifeste avec beaucoup d'autres à l'appel de l'Église catholique contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Enfin, elle manifeste, c'est beaucoup dire, hein. C'est-à-dire qu'elle est dans l'enceinte de sa paroisse de Saint-François de Sales à Kintambo, dans la banlieue de Kinshasa, la capitale. Dans l'enceinte de la paroisse, je précise, les forces de sécurité lui tirent dessus, une balle en plein cœur. Thérèse est morte. Elle fait partie des 16 morts que comptent désormais les manifestations à répétition contre Kabila. Il y a encore, ils étaient, selon l'Église catholique, 3 millions à manifester. Et l'ONU fait état aujourd'hui de 2 morts, 50 blessés et une centaine d'arrestations.
Alors, quand même, Jean-Marc, pardon, je vais le dire de manière très cynique, mais un pouvoir contesté qui réprime, c'est presque du très banal, surtout dans cette partie du monde.
Oui, c'est banal, c'est vrai. Ce qui l'est un peu moins, ce sont les raisons et les formes de la contestation. Arrêtons-nous pour un peu d'histoire. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir presque par hasard. Il est propulsé chef de l'État en quelques minutes, en 2001, lorsque son son père, qui est alors président, est assassiné. On le surnomme alors Petit Joe, c'est presque affectueux. Petit Joe est alors un bon démocrate. Il réforme la Constitution pour limiter le nombre de mandats présidentiels à deux. Il est élu une fois, puis deux fois, vous me voyez venir.
Tout de suite, oui.
Le deuxième mandat s'achève en décembre 2016. Vous faites le calcul, ça fait donc 14 mois que Petit Joe devrait avoir quitté le pouvoir en application de sa propre réforme. Mais il ne veut pas partir. Il a accepté un premier compromis pour s'en aller en décembre 2017. Et puis un second compromis pour organiser des élections en décembre 2018 et puis ainsi de suite. Enfin, en fait, les mois passent et rien ne se passe. Et en face, le seul contre-pouvoir structuré, c'est l'Église catholique. Elle a donc pris la tête de la contestation avec notamment un homme au caractère bien trempé, c'est l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo. Dans ses prêches, il parle, je cite, « des médiocres qui doivent dégagé. Depuis le 31 décembre, les manifs se succèdent donc au rythme d'une manif par mois. Et en face, Joseph Kabila laisse sa police politique tirer dans la foule, jusque dans les paroisses.
Et vous allez me dire que tout le monde s'en moque.
Exactement, et la France au premier chef. Les regards sont à tout nouveau tournés vers la Syrie, on l'a compris, où se noue le drame que l'on sait dans le quartier de la Ghouta à Damas. Et pendant ce temps, Kabila réprime en toute tranquillité. Certains sont un peu plus fermes, le Parlement européen, la Belgique, qui a interrompu sa coopération bilatérale. Mais Paris se contente de condamner du bout des lèvres. Et du coup, à Kinshasa, des opposants ont lancé une campagne anti-française sur les réseaux sociaux. Certains vont jusqu'à affirmer que la France version Macron soutiendrait la répression de Kabila afin de ménager les intérêts économiques de ses entreprises sur place, les Total, les Orange, les Bolloré.
Alors ça peut être aussi de la réelle politique, hein, c'est comme ça que ça s'appelle.
C'est comme ça que ça s'appelle, mais c'est peut-être aussi un mauvais calcul. D'abord, le bilan de Joseph Kabila est désastreux. Incompétence, corruption généralisée, népotisme, incapacité à sortir le pays de la pauvreté. C'est l'un des pays les plus pauvres au monde alors qu'il regorge de richesses minières, de l'or, du cuivre, des diamants, du cobalt. Ensuite, les manifestations n'ont aucune raison de s'arrêter. Parce que Kabila n'est plus légitime et parce que l'Église semble déterminée, d'autant qu'elle est appuyée par le Vatican. Et enfin, il y a un risque d'émigration massive vers l'Europe depuis ce pays si jeune. Si on laisse faire Kabila, on peut créer les conditions d'une nouvelle crise migratoire que l'on regrettera demain, mais alors il sera trop tard. Et on se dira, tiens, ça, on aurait dû y penser plus tôt.
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le 18-20 de France Inter continue avec le journal de Sébastien Paour. Et puis, le téléphone sonne ce soir, on parle de la droite face à Emmanuel Macron. Mais quelle droite, avec quelle stratégie pour aller chercher les voix, dans quel endroit exactement? À tout de suite au 01 40 5 24 7000.